Oui, c'est ça. Bonsoir Rémi, parce que pour ce billet d'ailleurs, j'ai choisi de prendre des risques. Et pour la première fois, je vous parle d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques heures seulement et dont l'issue est encore extrêmement incertaine. Alors, on l'a appris ce matin, l'opposant Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur d'une élection présidentielle historique en République démocratique du Congo. Alors, face à cette information, j'ai trois questions. Qui est Tshisekedi? Pourquoi cette élection est-elle historique? Et pourquoi tant de contestations? Et je crois que j'ai aussi 5 minutes pour vous livrer des réponses.
Hop là, j'attrape mon script. Avant de parler de la victoire de Tshisekedi, il faudrait peut-être savoir qui étaient ses concurrents, Marie.
Et oui, en lice pour succéder au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père et prédécesseur en 2001, il y avait 21 candidats, dont 3 susceptibles de l'emporter. Le premier, c'est Emmanuel Ramazani Shadary, ex-ministre de l'Intérieur et dauphin de Kabila, mais visé par des sanctions européennes pour son rôle dans la répression de manifestations. Le second, c'est Martin Fayulu, candidat de l'opposition, député et homme d'affaires. Et le troisième, eh bien, c'est Félix Tshisekedi, qui succède à son père comme principale figure de l'opposition à la tête de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Une figure de l'opposition, certes, mais qui s'est montrée favorable à un rapprochement avec Kabila, qu'il considère désormais comme un partenaire de l'alternance démocratique.
Et je crois que ni les campagnes ni les élections ne se sont vraiment déroulées dans le calme.
Exactement. D'abord parce que l'élection a déjà été repoussée 3 fois, officiellement en raison de manque de moyens et malgré les contestations. Ensuite, parce qu'elle a eu lieu dans une situation chaotique. Plusieurs personnes ont été tuées et les 2 opposants, Fayulu et Tshisekedi, ont refusé de signer l'acte pour la paix qui les engageait à rejeter toute violence, sous prétexte que le texte ne prenait pas en compte leur demande sur une gestion plus juste des bulletins de vote.
Je sens qu'on en arrive à la prochaine question. Pourquoi donc une consultation?
Pourquoi une contestation?
Contestation,
oui.
Oulala, pardon, décidément, question. Consultation, c'est en France.
J'écris mal, c'est pour ça. Question importante en effet, car si la Commission électorale nationale indépendante, la CENI de la République démocratique du Congo, a déclaré Tshisekedi vainqueur avec 38% des voix, ce résultat est contredit. D'abord par l'opposant Martin Fayulu, qui dénonce une tentative de putsch électoral. Ensuite par l'Église du Congo, qui a déclaré son décompte contraire aux résultats proclamés par la Commission. Et enfin par la Belgique et par la France, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ayant évoqué un manque de conformité des résultats et déclaré avoir saisi le Conseil de sécurité. En République démocratique du Congo, les vaincus peuvent encore saisir le Conseil constitutionnel qui aurait alors 10 jours pour mener son enquête sur la validité des résultats. Mais dans tous les cas, les résultats définitifs ne seront annoncés que le 15 janvier.
Mais alors, outre les contestations, quels sont peut-être les vrais enjeux de cette élection et pourquoi parler d'une élection historique, Marie?
Eh bien, d'abord parce que ces élections sont censées être le premier transfert démocratique de pouvoir, puisque pour la première fois, le chef de l'État de RDC a accepté de quitter le pouvoir par lui-même et non sous la contrainte des armes. Ensuite, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition est proclamé vainqueur. On observera donc, si Tshisekedi est élu, une alternance à la tête du pouvoir, puisque le président de l'opposition gouvernera avec la coalition menée par l'ancien président Kabila.
Un gouvernement qui, je crois, ne sera peut-être pas évident.
C'est ça, puisqu'outre les particularités de l'élection, il faut aussi comprendre à quel défi devra faire face le prochain chef d'État. Puisque diriger la RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie, c'est en effet plusieurs enjeux à négocier. Et pour vous en convaincre, je vous propose un petit tour d'horizon de la République démocratique du Congo.
Un bref retour sur l'histoire, peut-être, de ce pays d'abord.
Alors oui, bonne idée. Le Congo est gouverné par plusieurs royaumes et empires, toujours, avant de devenir une colonie belge en 1908 et jusqu'en 1960, date de proclamation de la République du Congo. Après des années chaotiques, marquées par la sécession de province et l'assassinat du président, le général Mobutu prend le pouvoir. Il réprime violemment les rebelles et renomme le pays République du Zaïre, avant d'être renversé par des troupes rebelles soutenues par plusieurs États étrangers lors de la première guerre du Congo.
On est donc en...
En 97, année où est proclamée la Seconde République du Congo.
Entre autres, et
où le président Laurent-Désiré Kabila prend le pouvoir. Un an plus tard, éclate la désastreuse Deuxième Guerre du Congo, qui oppose plusieurs pays africains dans ce qui deviendra la plus grande guerre entre États de l'histoire de l'Afrique contemporaine. Laurent-Désiré Kabila est assassiné, et son fils Joseph Kabila lui succède et restera au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, bien qu'accusé de corruption et d'accaparement des ressources.
Et alors maintenant, on en est où du coup ?
Eh bien maintenant, le prochain président devra faire face à des défis nombreux. Je vous propose de mentionner trois d'entre eux. Premier défi, mettre en place une politique économique efficace. Le pays comporte en effet d'immenses réserves de ressources naturelles stratégiques, comme les diamants, le cuivre ou le cobalt, utilisés pour les batteries de smartphones et de voitures notamment. Des ressources très convoitées, dont l'extraction met en danger l'environnement et la souveraineté du pays, qui fait face aux pressions diplomatiques occidentales. Le second défi, c'est de faire face à la crise humanitaire que traverse un pays dans lequel 87% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et qui connaît, malgré ses ressources, un retard important en termes d'éducation et de santé. Et enfin, j'ai bientôt fini, troisième défi, gérer les conflits et la violence dans un pays marqué dans le passé par des guerres destructrices, et aujourd'hui par l'action de plusieurs groupes armés, rebelles islamistes, groupes armés M23 ou milices locales d'autodéfense dans les provinces du Kazakhstan notamment, des groupes qui s'appuient également sur l'exploitation illégale des ressources naturelles.
Une situation plus que chaotique donc sur laquelle on pourra revenir.
C'est ça, oui. Pour l'instant, reste à voir quel tournant prendra la première réelle élection démocratique d'un pays dont le président aura, c'est certain, du pain sur la planche.
Merci beaucoup, Marie, pour ce billet. D'ailleurs, on suivra bien sûr la situation du côté de la République démocratique du Congo.